sur Europe 1.
C'est vrai que nous en parlons souvent ici, chers amis, et que je vous conseille souvent de vous poser et puis de voir en pleine conscience, de ressentir réellement tout ce qui vous pousse à agir, ressentir tous ces sentiments qui vous animent et qui finissent par déboucher sur la volonté de bouger, la volonté de rencontrer d'autres personnes, la volonté de ne pas stagner aussi. Et finalement, c'est ce que Clémentine arrive à faire aujourd'hui, prendre la bonne décision, car souvent, lorsqu'on est confronté comme ça à la famille, et que tout un tas de sentiments, des sentiments qui sont souvent liés à la tradition, viennent un peu vous embrumer l'esprit, et on met un certain temps à prendre ce type de décision. Or, arriver à, en toute conscience, à faire un inventaire comme Clémentine a réussi à le faire, c'est, quoi qu'il arrive, gagner du temps. Pensez-y. On accueille Anne maintenant au 3921. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Comment allez-vous,
bonsoir,
Anne?
Bonsoir Olivier. Mieux.
Mieux.
Mieux. Et vous?
Bah, oui. Écoutez, moi ça va.
Oui, oui.
Ça va.
Bon, tant mieux.
Comment se
ça
fait-il?
Ça fait tout drôle de vous entendre. Ah. Voilà, je vous dis que ça va mieux parce que on a passé une épreuve assez difficile.
Oui.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais témoigner parce qu'il y a d'autres personnes actuellement qui vivent les choses identiques. Et je voulais témoigner, quoi, donner mon histoire.
D'accord.
Alors, mon histoire, elle commence bien. Tous les ans, nous allons passer 2 mois au Maroc, janvier-février, pour passer être au soleil pendant les mois d'hiver.
Quelle chance!
Moi-même, oui. Ah, ben, c'est la chance quand on est à la retraite. Il faut avoir quelques avantages.
Nous en parlions hier soir, vous voyez, je l'évoquais hier soir que bon nombre de personnes qui, une fois à la retraite, vont au Maroc, au Sénégal, parfois louent, parfois ont une petite maison, et c'est vrai qu'il y a un pouvoir d'achat là-bas qui, au-delà même du soleil et de la douceur de cette terre marocaine et du temps marocain, hein, voilà, les gens augmentent le pouvoir d'achat, et c'est vraiment très agréable de pouvoir faire ce genre de choses.
Oui, tout à fait.
Mais
et
je sens...
en plus, bon, moi j'y suis née, alors...
vous connaissez bien.
J'ai bien connu, je suis partie relativement jeune, mais bon, maintenant on y retourne avec un grand bonheur, et puis alors les Marocains sont des gens absolument extraordinaires. Alors nous louons un petit appartement dans un petit village de pêcheurs et de surf, spot de surf.
Près des Saouira ou
un peu au sud, c'est à 20 km d'Agadir, c'est la baie de Tarazout.
Tarazout, vous savez que je connais très bien Tarazout. C'est magnifique Tarazout.
Oh. Alors on a les pieds dans l'eau et les surfeurs qui viennent faire du surf sous nos fenêtres, c'est vraiment extraordinaire. Et puis la douceur de vivre, quoi. C'est, on va faire son petit marché, les pêcheurs vous vendent des sardines, des anchois, des sols.
Tout juste pêché là.
Puis alors la vie est vraiment. Très très bon marché. Hein.
Vous savez qu'on parle de la cuisine marocaine comme étant l'une des plus réputées au niveau du monde, parce que souvent on parle de la cuisine française et ensuite de la cuisine marocaine, parce que c'est vrai qu'on mange extrêmement bien.
Elle est très variée finalement. On vous parle toujours du couscous, couscous et des tagines, mais il y a tellement d'autres bons plats, les ptilars, les choses comme ça, puis tous ces épices, ça sent bon, c'est merveilleux.
Donc,
cette année, on a fait une petite... on a divergé un petit peu, c'est que j'ai ma dernière fille qui a eu un bébé au mois de janvier, mi-janvier, dont nous décidons de partir pour pouvoir aller voir le bébé un peu plus tard. Et nous arrivons le 29 janvier, donc dans cet appartement que nous louons tous les ans et qui est formidable. Et puis en plus, celui qui s'en occupe, Omar, c'est un garçon... C'est mon second fils, si, parce que j'ai un fils avant, et puis vraiment, il fait maintenant partie de ma famille et tout. Bon, tout se passe très bien, on s'installe, tout était parfait. Mes petits-enfants, pour les vacances de février, viennent nous voir. Il faisait une chaleur, on se baigne tous les jours. Enfin, vraiment, c'était le rêve. Et puis arrive le confinement en France.
Oui.
Et puis pareil, le confinement au Maroc. Fermeture des frontières du jour au lendemain. Et donc, nous devions rentrer le 29 mars. Et à peu près le 22, on reçoit un SMS de la compagnie italienne qui a le monopole du transfert de Sète à Tanger et de Tanger à Sète. Mmh. Je reçois un SMS me disant « voyage annulé ». Le lendemain, nous allons à Agadir, on passe au consulat. Et là, il y avait plusieurs personnes affolées, les avions étaient bloqués, parce qu'on s'était dit on va rentrer en avion à ce moment-là, c'est possible. Mais comme j'ai deux petits chiens, je ne pouvais pas prendre par internet les billets. Nous avons nos deux petits chiens avec nous. Donc on va au consulat, comment on va pouvoir faire pour réserver une place d'avion? On me dit, madame, de toute façon, il n'y a plus d'avion. Il y avait deux jeunes infirmières qui étaient là, qui était complètement affolé, mais nous, il faut qu'on rentre en France. Enfin bref, il y a eu, je pense, au niveau des avions, des facilités. Et puis, on voyait bien à la télé les gens qui dormaient à l'aéroport. Vous êtes toujours là, Olivier ?
Oui, oui, je suis toujours là, je vous écoute. et j'étais en train de penser, oui. Vous savez qu'on avait eu l'intervention d'une dame qui était coincée à Dakar, et donc qui décrivait aussi ces scènes de beaucoup d'Européens bloqués, voilà. Et qui dormaient, ouais. Et qui attendaient un hypothétique vol, mais sans être sûr, ouais. De quoi que ce soit.
Voilà. Alors comme on est quand même âgé, et puis les deux petits chiens, on a dit, nous, de toute façon, sans nos chiens, on part pas. Alors, c'est pas la peine d'aller nous mettre dans la cohue, parce qu'il y avait un petit peu de cas quand même au Maroc. Ils sont loin d'être à notre niveau, mais ils ont tout de suite confiné, très, très rigoureusement, et ça a été respecté de manière formidable.
Oui, oui, beaucoup plus rigoureusement que chez nous, je crois. Hein.
Ça a été respecté, mais vraiment très, très, très bien. Bon, donc, on nous a dit de ne pas sortir. On a eu un certificat du maire de Tarazout qui nous a permis d'aller une fois par semaine à Agadir faire nos courses, parce que, naturellement, beaucoup de magasins, tout ça, ont fermé.
Oui, oui, oui.
Et à Tarazout, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Hein. Bon, les légumes, si, ils sont formidables, mais on ne trouve pas quand même énormément de choses. Donc, on allait toutes les semaines, puis ça nous faisait du bien quand même de sortir un petit peu. Et puis Agadir est très sympa. Il n'y avait pas non plus le café du Dôme ouvert, mais bon, il y avait quand même les grandes surfaces ouvertes et puis le marché aux poissons et tout. Donc,
le souk était fermé quand même en pleine
confinement. Ah oui, tous les souks. Ouais. Tous les souks. Moi, avant, j'allais au souk à Ourir. Le souk qui est à 10 km de Tarazout en allant vers Agadir, j'adorais. Il y a des montagnes de légumes. Ça m'amusait de voir tous les petits pois, des montagnes de petits pois, de carottes, de tout ça.
Et c'est-à-dire que vous allez dans ces magasins au Maroc et c'est tout de même déjà, c'est un spectacle de voir les étals, comment ils sont, c'est magnifique.
Organiser tout ça, toutes ces couleurs, les épices, tout, c'est très très beau, mais tout ça c'était fermé, hein. Là, il y avait plus moyen d'y accéder. Et ce qui est normal, hein, parce que dans les soupes, quand même, il y a vraiment beaucoup de promiscuité. Hein. Et donc notre billet est annulé. Immédiatement, je téléphone, je contacte la compagnie pour un billet mi-avril, avec donc cabine, avec mes chiens, etc.
Oui.
Et bon, mi-avril, il est annulé. Alors, je re-réserve, je dis quel est le prochain. Alors, on me dit c'est le 8 mai. Mmh. Bon, alors je re-réserve cabine avec chien, etc. Et puis, deux jours avant le 8 mai, je crois, pareil, on m'envoie. Mais tout ça, c'est par SMS. Alors, je dois vous dire quand même que dès que ça a été bloqué, nous nous sommes inscrits au consulat d'Agadir et à l'ambassade de France à Rabat pour dire qu'on était des Français et qu'on voulait rentrer. Mais on me demande, est-ce que vous avez un toit? Ben oui, on a un toit. Gentiment, on a continué à nous louer notre appartement, mais bon, on nous faisait payer aussi. Alors on part pour 2 mois de location, on arrive à 4. Alors, bon, c'est bon à comment ça, il faut y réfléchir à tout ça aussi. Donc, aucune nouvelle de consulat, de qui que ce soit, enfin bref. Et puis, le billet du 8 est donc annulé et on nous dit rapatriement. Alors là, c'est différent. De suite, ça devient autre chose. Le 12 et le 19 mai. Alors, nous, on se dit, bon, on a un billet pour le 8. Immédiatement, on remplit le papier, on envoie au consulat, parce qu'il fallait envoyer au consulat pour être rapatrié, et le consulat envoyait une liste à la compagnie de navigation en disant, voilà les personnes que vous avez à rapatrier. Mmh. Alors nous, on s'est dit, comme on avait une place pour le 8, obligatoirement, on en aura une pour le 12, puisque, vous rendez compte, on avait payé nos billets avant Noël,
oui.
En début décembre.
Mais ce qui ne voulait donc pas obligatoirement dire que vous aviez une place pour le 12, en fait, parce que je suppose que...
Eh bien, voilà, voilà, malheureusement, mais enfin, on avait fait quand même immédiatement tous les papiers pour le consulat. Mmh. Hein. Et bon, et puis passe le 12, rien. Et alors, inutile de vous dire que le nombre de coups de fil que j'ai donné avec la petite musique qui vous fait attendre, je crois que à la compagnie de navigation, j'ai dû passer des heures au téléphone. Le consulat, on vous dit tapez 1, tapez 2, 2 si vous êtes en urgence et que vous voulez partir. Quand vous tapez 2, on vous dit ah ben vous téléphonez à tel numéro ou tel numéro et vous appelez à ces numéros-là, on ne vous répond pas. Ça a été comme ça sans arrêt. Alors on s'est dit bon, ben on va voir le 19. Et puis là-dessus, on nous dit que toujours par... alors non, toutes ces nouvelles-là, je les avais aussi sur Internet. Mm-hmm. Par le, vous savez, les sites du consulat et tout ça. Ouais, on ne m'a pas prévenu ni téléphoné. J'apprends que le 19 est annulé pour raison de logistique et que le prochain est au 26. Alors là, bon... Mon mari fait des lettres à n'en plus finir au consulat. Moi, je téléphone à GNV. On me dit, oh, ben, on sait pas, ceci, cela. Enfin, bref, on nous mène en bateau. Et puis voilà que donc c'était le 26. Mettons que le 22, le consulat nous envoie un mail. Une dame très gentille. C'est la seule qui a pris soin de nous, qui nous a pris à partir de ce moment-là un peu. Je dirais, nous a tenu un peu au courant,
oui.
Et qui nous envoie un mail en disant « Vous êtes sur la liste du 26 ». Ouf, très bien. J'espère qu'on va vous prévenir par téléphone, qu'on va vous appeler. Bon, gardez votre téléphone, votre carte bancaire et vos passeports à côté de vous. Alors, inutile de vous dire, je dormais nuit et jour avec mon téléphone, mon passeport et ma carte bancaire.
Vous avez donc fini par rentrer le 26, je suppose ?
Alors, attendez, parce qu'une fois que vous avez le billet, il faut l'autorisation de circulation.
Oui.
Il y avait couvre-feu jusqu'à la fin du Ramadan.
Vous étiez en plein Ramadan en plus, c'est vrai, ouais.
En plus, et puis alors du coup, alors il fallait que le consulat vous envoie un papier à faire signer. Heureusement qu'on avait une imprimante que le manager là de la résidence nous l'avait prêtée pour aller faire signer au pacha du village à côté. Bon, on part le 26, 850 km en une journée. Je réussis à avoir une place dans un hôtel parce que le départ était à 11h, il fallait être à 7h du matin à l'embarquement.
Donc il fallait être là la veille.
Il fallait être là la veille, alors plutôt que de dormir dans la voiture. Alors je ne vous dis pas l'hôtel, le pauvre, ils ont été adorables, on devait être 4 clients. Ils ont quand même réussi à nous faire cuire une petite grillade et tout ça. Enfin bref, à 7h du matin à l'embarquement. Toutes les formalités et tout ça remplir, là, c'était super bien organisé par les Marocains, alors qu'en général, quand le retour à Tanger, c'est un peu la foire.
Bon, en tout cas, on peut imaginer que ce retour arrivé, enfin embarqué et les formalités remplies, vous étiez près du but. On va savoir si vous vous êtes envolé, ma chère. On marque une petite pause parce que l'info arrive sur Europe 1 et on se retrouve juste après, d'accord ?
Avec plaisir, avec plaisir.
Vous aussi, Venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur votre radio, la radio bleue Europe 1, et vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct, chers amis. Vous avez toujours le moyen de nous joindre au 3921 avec en régie Philippe, Jean-François, Florian qui attendent vos messages. Donc n'hésitez pas, vous pouvez encore nous appeler, ainsi que nous envoyer vos conseils, vos questions au 739-21. Comme Karine hier qui demandait des nouvelles de cette jeune maman belge qui nous avait appelé à deux reprises. Sachez que nous vous donnerons bientôt des nouvelles et que nous l'aurons au téléphone ici sur cette antenne, mais les nouvelles sont plutôt optimistes, dirons-nous. Vous l'aurez peut-être la semaine prochaine. Il y a de grandes chances, en tout cas. Nous sommes toujours avec Jacqueline, avec Anne, qui nous évoque... Excusez-moi, parce qu'en fait, oui. Vous savez, j'ai un problème avec les prénoms, donc et comme j'ai un ordinateur avec plein de prénoms devant moi, il fallait que je vous retrouve. Anne, oui. Vous avez rempli donc toutes les formalités.
J'ai oublié un détail important, c'est que le lundi, donc, on reçoit un mail du consulat qui nous dit qu'on est sur la liste et nous dit on va vous prévenir par téléphone. Et alors, les jours passent et puis je vois arriver le pont de Pentecôte et le jeudi, toujours rien. Oh là, vous savez, de sensation de se sentir abandonné de tout.
Oui, oui.
Mmh. C'est, même si vous êtes bien, s'il y a le soleil... C'est quelque chose, enfin moi ça me prenait au tripes.
C'était angoissant, et puis ça faisait un moment, ça faisait un moment que vous étiez loin de chez vous quand même. Parce que...
Ça faisait un moment, les enfants, bon ils faisaient semblant de ne pas être trop préoccupés, mais maman c'était aussi bien là-bas, mais finalement tout le monde nous disait ça, profite du soleil, profite, baigne-toi, mais bon je sentais bien aussi qu'ils se faisaient du souci. D'ailleurs cet après-midi mon fils m'a dit, oh là là je suis contente que tu sois arrivée parce que on se faisait beaucoup de soucis. Il se demandait comment on allait pouvoir rentrer.
Si ça allait avoir une fin, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Alors le jeudi, je téléphone après le petit déjeuner qui me restait sur l'estomac à la compagnie de navigation. Et on me dit, bon, alors, donnez-moi votre nom. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas été très aimable au départ. Et votre nom, etc. Puis on me dit, ah, ben naturellement, vous demandez une cabine avec chien, il n'y a pas de cabine avec chien.
D'accord.
Donc... Et on vous a prévenu. Ah, je dis non, alors ne racontez pas ça. Qu'il n'y ait pas de cabine avec chien, c'est une chose, mais vous ne m'avez pas prévenu, parce que de toute façon, j'aurais pris même une cabine, pas pour chien.
Alors quand vous appelez une cabine avec chien, en fait, ça veut dire que vos chiens voyagent avec vous, sont des petits chiens ?
Voilà, c'est des petits caniches, ils voyagent avec nous, alors qu'autrement, ils sont dans un une cage et
ils peuvent avoir peur comme ça.
Ben surtout que c'est quand même plus de 2 jours, enfin c'est 2 jours, hein, presque 46 heures le trajet, ou 42.
Oui.
Ça fait quand même, hein, c'est pas 5 minutes, hein,
oui,
le
oui,
trajet
oui,
de Tanger jusqu'à 7. Hein. Alors, il y en a un qui est peureux comme c'est pas possible. Je suis sûre qu'il serait au bout d'une heure de temps, il aurait fait une crise cardiaque.
Oui,
hein.
Oui.
C'est pas possible.
Et alors donc comment ça s'arrange ?
Du coup, ça s'arrange. Je dis écoutez, vous me donnez. Alors elle me dit bon, attendez. Alors elle est allée je ne sais où, et puis au bout d'un moment elle vient. Il me dit, il n'y a plus qu'une seule cabine, mais vous ne pouvez pas mettre vos chiens. Moi, je dis, c'est pas grave, vous me donnez n'importe quelle cabine, en me disant dans ma tête, Tintin, je mettrai mes chiens. Vous auriez vu sur le bateau, il y en avait, je ne sais pas, au moins 30 chiens.
Ah oui, ah oui.
Alors que des cabines. Ah oui, oui, non, mais ils ont rien dit en plus parce que c'était pas possible. Hein. Là, ils pouvaient pas ne pas accepter. Hein. Donc alors on arrive, bon, et alors là le ça s'est très bien passé pour l'embarquement et tout. On a pris 4 heures de retard, mais alors le voyage, la compagnie avait à peine ouvert les parties communes.
Oui.
Alors pour le repas, il y avait une heure d'attente dans un self où on mangeait, c'est de la ragounias, je dirais.
Oui. Bah,
alors que d'habitude ils ont une grande salle de restaurant où on est justement très peu confiné. Ils auraient pu faire deux services, un d'un côté, un de l'autre. Ils avaient tout fermé, tout ça. Et un restaurant où on mangeait très très bien, un restaurant avec de la cuisine italienne qui était parfait. Mais là, alors franchement, c'était... Alors naturellement, les gens étaient tous excédés. Ça finissait toujours par des engueulades,
des disputes,
je dis, ça.
Ouais.
Parce que bon, aussi bien avec le personnel. Alors par contre, leur personnel qui sont des... Moi je dis, c'est des esclaves modernes. C'est tous les petits asiatiques qui sont embarqués là-dedans pour des bouchées de pain.
Ah oui.
Et
ce ne sont pas des Marocains en fait qui travaillent sur ces compagnies italiennes.
Ah non, là c'est une compagnie italienne et non. C'est alors il y a tout le staff, c'est des Italiens.
Oui.
Et puis tout le personnel, voilà, qui font les cabines, qui font le service machin, qui font tous les travaux les plus difficiles. Eh ben, ce sont tous asiatiques. Je ne sais pas vous dire quel...
D'accord. Et en fait, le bateau part de Tanger, il arrive où, ce bateau ?
Alors, celui-là, il arrive... Alors, en temps normal, il fait Tanger, Barcelone...
Oui.
Tanger 7. Après, je crois qu'il va aussi en Italie, doit aller à Gênes ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Et puis il recommence, voilà, en temps normal. Mais là, il était affrété essentiellement, puisque les frontières étaient fermées, hein, espagnoles et tout ça.
Mm-hmm.
Il était affrété pour le rapatriement par le gouvernement français, l'ambassade de France au Maroc. Et donc, ça se jouait entre ceux-là. Les Marocains ne prêtaient que leur port, à la limite, vous voyez.
D'accord.
Hein, le port et puis tout le personnel pour l'embarquement au port, la gestion du port. Mais autrement, tout le reste était fait par... Alors, je vous assure que ce n'est pas des compliments à faire. Hein.
Et donc,
bon, enfin, on a débarqué, ouf, ce matin, par un soleil magnifique à 7. Et alors, bon, on nous a dit, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela? On ne nous a même pas pris la température. Et on nous a dit, vous rentrez directement chez vous et vous restez 14 jours chez vous.
D'accord.
Alors, j'ai dit, mais ça veut dire quoi, ça, 14 jours? Il dit, bah, vous êtes enfermé pendant 14 jours. Je dis, mais qui est-ce qui va faire mes courses? Ah ben alors, vous sortez avec un masque. Voilà.
Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien quand même. Hein,
oui,
parce que,
ouf, oui. Oh là là, puis quel bonheur de se retrouver chez soi après 4 mois.
Ben oui, ça, vous avez dû goûter à nouveau à la France, à votre chez-vous,
oui,
hein, tout de même. Et,
oui,
et
oui.
Au final quand même, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel sentiment vous avez eu par rapport à... Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de plaintes, en tout cas de Français qui se sont plaints du consulat, notamment au Maroc, en fait. Est-ce que vous avez eu vraiment l'impression d'être accompagné, épaulé ou...
Non.
Bon.
Non, il n'y a qu'une personne, je vous dis, qui vraiment la dernière semaine a correspondu par mail avec mon mari, mais autrement, on envoyait des mails, on n'avait aucune réponse, on essayait de téléphoner, ça ne répondait pas, non, ça franchement, il y en a beaucoup. Alors, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi... vous savez, au début du confinement, il y a eu un fait divers avec des camping-cars qui avaient bloqué le port de Tanger.
Non,
je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, pas du tout, non.
Voilà. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont passer l'hiver au Maroc avec des camping-cars.
Oui.
Ils ont le droit. Hein, mais alors, ces gens-là font partie d'associations.
Oui.
C'est-à-dire que c'est comme une agence de voyage, si vous voulez.
D'accord.
Il y a quelqu'un qui doit organiser pour tel. Ils vont tous, on les voit, ils sont en caravane le long de la route, ils s'arrêtent dans les mêmes campings, etc., etc. Et alors fin mars, il y a eu ces gens-là qui sont arrivés sans crier gare. Il n'y avait pas encore les routes coupées au Maroc, qui sont arrivés à Tanger et qui ont bloqué le port de Tanger. Et donc là, l'ambassade était bien embêtée. Ils ont fallu trouver des endroits pour les mettre, où il y ait de l'eau, enfin les commodités obligatoires, etc. Et moi, je pense qu'ils ont... c'est mon interprétation, mais j'aurais bien aimé qu'on me donne une explication. Parce que, vous voyez, par exemple, sur notre bateau, pour 5 voitures, il devait y avoir 30 camping-cars.
Il y a beaucoup de camping-cars, vous avez raison, chaque année, il y a beaucoup de gens qui vont en camping-car. D'ailleurs, c'est super, hein, le camping-car, pour toutes ces personnes.
C'est bon, je les critique pas, hein, je veux dire par là qu'on n'a pas, il y avait quand même les voitures qui étaient, les petites voitures, c'était essentiellement des Marocains qui revenaient en France, parce qu'ils vivaient en France. Eux aussi, ils avaient besoin d'être rapatriés.
Bien sûr, bien sûr. Hein? Bon, écoutez, en tout cas, tout est bien.
Voilà, ça termine par bien, mais
ma chère.
Je voulais qu'il y ait un témoignage de manière, parce qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Qui sont bloqués. Ouais.
Je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est dans les, combien il peut y avoir.
Il reste 2000 camping-cars.
2000 camping-cars qui restent.
Oui, plus les voitures.
Il y a encore des milliers de personnes à rapatrier.
Ça va encore mettre bien 15 jours, 3 semaines, voire un mois à ce que tout le monde rentre.
Plus que ça. Parce que là, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres de prévus après le 26. Mm-hmm. C'était tout en juin.
Bon, écoutez, au moins, vous êtes rentré.
J'espère pour eux. J'espère pour eux. C'est pour ça aussi que je veux témoigner. C'est pour tous ces gens qui sont là à attendre. Et parce que sur le bateau, j'ai eu des témoignages aussi de gens qui disaient, mais on était laissés, mais complètement à l'abandon.
Oui,
on téléphonait, aucune nouvelle.
Ça, c'est absolument anormal, ça c'est sûr.
On peut
comprendre que cette situation était très compliquée, bien évidemment.
À gérer. Il n'y a pas que le Maroc, il y a d'autres pays.
Mais tout de même, il est anormal de ne pas pouvoir joindre le consulat de France parce qu'il y en a un peu partout. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon retour en tout cas chez vous.
On est à la maison.
Profitez bien de vos enfants. Oui. Les petits chiens doivent être calés, doivent être crevés. Les chiens, ils doivent dormir déjà, je suis sûr.
Oh ils sont épuisés.
Bon,
trop d'émotions.
Très bien. Je vous souhaite une bonne nuit, ma chère Anne, et un bon retour chez
vous. Merci, Olivier.
Je vous embrasse.
Merci. Au revoir.